Quel Mac ? Question au singulier et au pluriel pour la keynote du 8 mars dont on attend la confirmation de manière imminente. MacBook Air ou MacBook Pro ou les deux ? iMac 27, 27 Pro ou pas ? Nos réponses à suivre dans Pommes. Vous les considérez comme des gadgets, les smartphones pliables rapporteront 29 milliards de dollars en 2025 selon IDC. Samsung dévoilera dimanche sa quatrième génération de Z Flip et Z Fold et Apple. Faut-il désinstaller TikTok en urgence ? Deux études concluent que l'appli chinoise du réseau social qui fait fureur chez les ados contourne toutes les sécurités mises en place par Google et Apple, y compris celle d'iOS 15, pour protéger votre vie privée et vos données. Des écouteurs True Wireless, 12 fois moins chers que les AirPods d'Apple. Ils sont signés Lidl, Fabrice Neumann les a essayés, avec un peu de mal certes, mais il a réussi et il va vous raconter. Ce sera le test de la semaine. Ma maison connectée en mode détecteur de fumée aujourd'hui. Et puis le tuto audio, ballon de plage qui tourne, Mac qui freeze, caractères qui apparaissent bien après avoir été tapé au clavier. Vous avez besoin de libérer de la RAM et je vais vous expliquer comment retrouver la mémoire vive de votre Mac. Jeudi 24 février 2022, J-12 avant la keynote probable du 8 mars, et J-4 et J-3, Ellie, avant nos anniversaires surtout.
Et oui, le temps passe et on ne rajeunit pas, mais bon, toi tu es toujours jeune premier, moi, là j'avance peu à peu.
Oh, il a fini papy, oui.
Le vieux dernier, non, mais non, c'est ça.
Dans ma tête, je vous rassure, j'ai toujours 20 ans.
Mais
donc
oui,
tout va
pour
bien.
Nous aussi, Ellie, salut à toi, salut à tous. Bonsoir, soyez chacune, chacun les bienvenus dans ce 79e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'écosystème Apple. 26e semaine de la saison 2, que le programme est chargé. Bon, j'avoue, Fabrice, j'attends particulièrement ton test des écouteurs intra-auriculaires Silvercrest à 17 € qu'on trouve chez Lidl. Salut Fabrice Neumann.
Salut à tous. Oui, pour ceux qui ont la vidéo, ils me voient les porter. Voilà, je fais présentation gauche, droite, ou l'inverse, je ne sais plus. Je vous en dis un peu plus tout à l'heure, absolument.
Et oui, on a hâte. François Le Truédic, fournisseur officiel en verre de vin chaud et en détecteur de fumée cette semaine.
Oui, bah déjà, je vais te contredire, je n'ai même pas bu un seul verre de vin chaud sur les bords des pistes, je l'admets.
Un petit grog.
Même pas un Irish Coffee, tu vois, c'est... Non, c'est triste, c'est plus ce que c'était. Bah, tu sais, je suis un peu comme vous, je vieillis, hein, donc... Mon estomac et mes intestins sont un peu plus délicats, quoi, mais bon, faut faire
J'allais
avec.
J'allais te
hein.
dire avec modération et tout, mais je peux même pas la faire. T'as carburé à l'eau, bon.
Même pas au cidre.
Aussi, non, il n'y avait pas quand même. Enfin, quoi qu'on remarque, il y avait bien des crêpes sur le bord des pistes, donc sait-on jamais, hein, depuis qu'on nous vole tout à nous, la Bretagne. Non, effectivement, Benji, je vais vous parler un peu de détecteur de fumée. Je continue à surveiller tout ça, d'autant que mon bureau a failli prendre feu il y a quelques temps et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une belle fumée blanche dans mon bureau. Oh. Pourtant, il n'y avait pas de nouveau pack, mais et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé.
Donc un test grandeur nature, ce sera tout à l'heure dans ma maison connectée, le rendez-vous domotique HomeKit avec toi, François, sain et sauf, heureusement. Ellie, qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent cette semaine avec ton dîner ?
Un petit dîner un peu varié cette semaine, avec beaucoup d'Apple quand même, hein, mais petite chose rigolote entre Apple et la justice néerlandaise once again. Le retour des vieux démons et en dessert un petit tuto rapide. Je sais qu'il y en a déjà un autre, mais là c'est un petit tuto très rapide. Vous allez voir.
Et bien à tout à l'heure pour ce dîner. L'actu Apple vous passionne comme nous, alors abonnez-vous à i5, le premier et le seul podcast quotidien dédié à cet univers. Chaque jour, en 5 minutes, les 5 infos essentielles avec deux membres de la team iWeek à chaque fois. Dans vos oreilles, plus de 20 épisodes par mois pour moins de 5 €, 4,99 € pour être précis. Pour vous abonner, ça se passe sur Spotify et sur l'appli podcast d'Apple où vous avez 3 jours d'essai totalement gratuit et c'est sans engagement. Pour soutenir iWeek qui reste gratuit, on a besoin de vous. J'en profite, on en profite pour remercier celles et ceux qui nous soutiennent déjà pour Vous autres, pour tous les autres, rendez-vous sur patreon.com/iWeek. Faites un don pour chaque épisode à partir d'1,50€, essentiel pour nous permettre de développer iWeek. Alors, un grand merci d'avance. Et puis, suivez-nous sur les réseaux et notamment sur Twitter @iWeekNews et @i5fr. Retweetez-nous, là aussi, on a besoin de vous et de votre communauté pour grandir. Et utilisez le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple, pour que vos messages nous parviennent. Dans une dizaine de minutes, TikTok, cheval de Troie de Pékin, mais tout de suite, le pliable et si Apple était en train de passer à côté de la prochaine grande révolution. A tout de suite. Est-ce que le pliable va être la prochaine grande révolution et est-ce qu'Apple s'apprête à passer à côté ? C'est l'info de la semaine alors que Samsung s'apprête, ce sera dimanche, à dévoiler sa 4e génération de smartphones pliables. Le Z Flip et le Z Fold 4 sont au programme de la conférence prévue dans le cadre du Mobile World Congress à Barcelone. Pour l'instant, les amis, Apple, le pliable, c'est un sujet qui n'a jamais, à ma connaissance, était même évoqué par Tim Cook.
Je crois qu'il en a parlé en disant qu'Apple regardait la technologie, mais que pour l'instant, c'était juste un regard curieux. Il n'y avait rien de concret. Et Apple arrivera, ou pas d'ailleurs, sur ce marché s'il considère qu'il est mûr et s'il considère que la technologie, plus qu'un effet d'annonce, devient quelque chose de très fiable et en même temps de compatible avec tout leur écosystème, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit en même temps très mince, très souple, que ça ne pose pas de problème, etc. Donc, ils sont jamais pressés d'arriver sur un marché, mais quand ils arrivent, leur produit doit être parfait. Ils peuvent pas se rater sur un iPhone, impossible.
Alors, si on en parle cette semaine, c'est parce que IDC vient de sortir une étude sur le pliable, avec une estimation qui nous a étonnés, surpris, même impressionnés. 29 milliards de dollars en 2025, c'est ce que devrait peser le marché du smartphone pliable. Alors c'est vrai que on regarde Samsung se casser un peu les dents sur cette technologie, ça a été des débuts très difficiles, vous vous souvenez. On en parlait aussi avec vous cette semaine dans i5, la troisième génération des Z Flip et des Z Fold commence à devenir presque attirante, presque sexy. La quatrième, elle sera donc dévoilée ce dimanche. Est-ce qu'en termes de timing, Fabrice, tu penses qu'Apple a raison de prendre son temps ?
Alors, raison, oui, parce que même si les chiffres qui sont annoncés sont assez gros, le marché est pas très grand. Et aujourd'hui, quand Apple sort quelque chose, c'est forcément sur un marché de j'ai presque envie de dire d'hypermasse en termes de millions d'exemplaires vendus. Donc c'est pas encore assez grand. Et puis en termes de techno et notamment de techno d'écran, tant qu'on fera pas vrai, qu'on sera pas capable de faire du VR pliable, je vois pas comment Apple irait faire du smartphone en plastique. Je schématise, hein, je suis pas en train de dire que tout est en plastique chez Samsung, mais l'écran lui-même est en plastique et rayable. Je pense pas que Apple ait envie de se lancer dans un appareil comme ça. Ils ont tout fait pour enlever le plastique devant et derrière. Même quand il y a eu l'iPhone 5C qui était en plastique, ça a pas duré longtemps et c'est vraiment pas ça qu'ils veulent faire. Donc il faut vraiment attendre un autre matériau que le plastique qui est utilisé aujourd'hui à mon avis.
François, quel regard tu portes, toi, sur ce que fait la concurrence, sur ce que fait Samsung plus particulièrement, cette troisième génération qui est sur le point de passer la main à la V4, ça devient presque des produits acceptables, non ?
Ouais, je veux même jusqu'à dire des produits sexy. Je trouve que c'est... Alors, le Z Flip, il est un peu particulier. Moi, ça me fait énormément penser aux vieux téléphones à clapet qu'on pouvait avoir il y a 15 ans avant l'arrivée de l'iPhone. Mmh. Je pense qu'ils ont voulu un peu jouer sur cette carte-là, un peu à l'image de ce que Nokia avait pu refaire avec le revival du 3310 qui était sorti il y a quelques années avec une version en couleur, avec un navigateur internet, etc. C'est vrai que nous, notre téléphone sans doute plus visé, ce serait le Fold. C'est vrai que la première génération, moi, j'avais trouvé ça vachement cheap. Il y avait quand même eu beaucoup de problèmes, il y avait eu un gros retard à l'allumage, hein, je le rappelle.
Des modèles avec le Fold, c'est celui qui se plie dans ce sens-là, oh. C'est-à-dire...
Comme un portefeuille.
Ouais. Comme un portefeuille, oui. Mmh.
Comme un portefeuille avec un écran... Clapet, hein. Ouais. Avec un écran sur... quand il est plié, en fait. Et c'est vrai que cet écran-là était quand même de très mauvaise qualité, avec des bords un peu bizarres. Les modèles qui avaient été envoyés aux journalistes étaient plus ou moins défectueux. Ils n'avaient pas indiqué qu'il ne fallait pas enlever justement la fameuse surface en plastique dont parlait Fabré juste avant. Donc les débuts ont été hyper
mais ça,
laborieux.
Mais c'était la première génération, ça.
Ouais, la première génération. Oui. Mais j'ai trouvé qu'au fur et à mesure, sur la deuxième et sur la troisième, ça a évolué, et la troisième commençait vraiment à donner envie. Et je pense que si ça n'avait pas été de l'Android et si on n'avait pas été aussi féru d'Apple, enfin moi, ce qui me concerne, je pense que j'aurais peut-être regardé très sérieusement ce produit. Donc je suis curieux vraiment de voir ce que Samsung va proposer sur la quatrième génération. Après, quand est-ce qu'Apple va la sortir? Moi, à mon avis, ça arrivera à un moment ou à un autre. Je pense que la technologie va mûrir. Peut-être pas pour l'année prochaine, peut-être plutôt pour 2024, je pense.
Ouais, on parle plutôt de 2025, hein, je crois, pour l'instant, dans les rumeurs.
2025, oui.
Élie.
Bah, moi, je suis un peu plus nuancé ou plus dur que François. Moi, je regarde attentivement les différentes générations. Pour l'instant, ils ont fait des progrès, c'est indiscutable. Mais on n'en est pas au point où j'ai envie d'en acheter un. C'est-à-dire que franchement, je leur trouve des défauts, surtout au niveau de l'épaisseur. Je suis toujours pas convaincu. Ils font toujours pas assez fin pour moi. Et donc, ça me donne pas envie d'en acheter. Et j'espère qu'Apple saura être suffisamment patient et nous sortir un produit où on va tous faire « waouh » et on aura tous envie de l'acheter. Oui. Après, je sais pas à quel prix, oui. Mais...
Fin parce que quand on les plie, forcément, l'épaisseur, elle double. Donc, il faut que l'épaisseur de départ soit particulièrement faible, évidemment. Ce produit
oui, et puis quand
pourrait...
on pense aux composants photo et compagnie, les composants photo, il faut bien les stocker. Donc, du coup, on est obligé de faire une épaisseur de base déjà quand ils sont dépliés. Quoi.
Tu parles des capteurs, notamment.
Oui. Il faudra trouver une technologie. Peut-être qu'il y aura justement quelque chose de très nouveau qui va arriver dans les mois ou les années qui viennent qui permettra de faire ce genre de choses. Hein. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas vraiment encore impressionné. Je veux dire, ça ne m'apportera rien d'avoir un téléphone pliable, d'avoir une tablette pliable. Peut-être. D'avoir un Mac pliable, c'est un autre sujet dont on va parler tout à l'heure. Et peut-être. Mais un téléphone pliable, non.
Fabrice.
Oui, je voulais juste rajouter un détail sur le niveau d'épaisseur. Rappelons que les iPhone 13 ont légèrement épaissi par rapport à l'iPhone 12 pour justement mettre un peu plus de batterie, placer des objectifs photo qui dépassent encore plus, qui sont énormes, etc. Donc si on imagine un iPhone un peu plus fin sur un bord pour qu'il puisse se plier en deux, effectivement, en ce qui concerne les capteurs photo, là, à part faire des choses périscopiques, là, c'est compliqué, mais du coup, c'est aussi compliqué. Donc si on fait un iPhone pliable avec un périscope ou deux et tous les composants qui vont avec, c'est 3 500 €, quoi.
Donc, peut-être.
Il manque un certain nombre de technologies, me semble-t-il, pour que Apple se lance sur ce marché. Ils les ont peut-être en labo, hein, mais pour l'instant, on les voit pas chez Samsung, en tout cas.
Bah, déjà, un petit point rapide, c'est que Apple s'est rendu compte que cet iPhone 13 que nous adorons est un tout petit peu trop épais, et surtout au niveau des capteurs. Et ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui sur les proto iPhone 14 qui viennent d'être finalisés, Apple aurait une nouvelle technologie qui permet quasiment de faire disparaître les capteurs à l'intérieur du téléphone tout en gardant une épaisseur aussi fine, sinon légèrement plus fine que l'actuelle. Donc ça veut dire que les technologies progressent.
Alors IDC a chiffré à 7 millions le nombre de flips et de folds vendus par Samsung en 2021. J'aurais pas dit ça, moi. 7 millions, ça me semble pas mal. Ça me semble même assez énorme.
Ouais. On verra les chiffres. Moi, ce qui me fait rigoler à chaque fois, c'est les noms, parce que moi, je les avais appelés au début le flip et flop. Et à chaque fois que tu dis Z flip, Z fold, moi, j'ai tendance à... Je me marre. Mais bon, c'est comme ça. Je suis méchant.
Alors, on parle donc de 2025 pour un éventuel iPhone pliable. Et la rumeur de la semaine, elle est venue de Ross Young, hein, le consultant spécialiste en écran, qui nous a annoncé qu'Apple travaillerait sur un Mac portable à écran pliable, un écran de 20 pouces. Jamais aucun écran de portable Apple n'a fait 20 pouces. Hein, on n'a jamais fait plus que 17 pouces. Est-ce que ça vous semble une piste crédible?
C'est difficile à dire. C'est intéressant comme concept pour ceux qui se baladent et qui ont besoin de montrer des présentations, des choses comme ça. Ça pourrait éventuellement, dans certains cas, éviter d'avoir à se connecter à un projecteur, par exemple. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça rejoint aussi la réflexion qu'Ali vient juste de faire sur le côté téléphone pliable. Il préférerait, et moi aussi d'ailleurs, une tablette pliable. Et on rentrerait dans ce jeu-là aussi, où d'avoir un écran qui est plus facilement transportable dans
oui, c'est l'écran qu'on plie en deux et qu'on met dans son sac, quoi.
Voilà, et donc du coup, ça rend la chose, c'est pas besoin d'un plus grand sac pour avoir un plus grand écran. L'idée est intéressante. Ouais.
Est-ce que c'est pas ce que fait déjà un peu Lenovo avec ses appareils mi-tablette, mi-PC?
On avait déjà ça finalement avec les MacBook Pro avec la Touch Bar, non? D'une certaine manière, c'était un peu la prémisse.
Pourquoi ça se plie une Touch Bar?
Non, mais le Mac se plie lui.
Oui.
Non, mais je suis dubitatif. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ça peut être vraiment une bonne idée. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de concepts. Enfin, ça existe même des ordinateurs où le clavier du coup est un écran tactile. Il y a plein de pistes hyper intéressantes. Maintenant, moi, mon interrogation, c'est le coût. Parce que quand on voit aujourd'hui, je prends l'exemple du MacBook Pro 16 pouces en entrée de gamme qui vaut quand même son pesant de cacahuètes, à combien ça va coûter, quoi? Le Pro XDR à côté, ce sera la baguette de pain, quoi. C'est une vraie question. Qu'Apple développe, bosse sur ce genre de techno, oui, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que ça sortira un jour? C'est là la question.
Ellie.
Bah, comme on a dit dans i5 cette semaine, en fait, il y a deux technologies dont parle Rossion, qui généralement est assez fiable, hein, puisque lui, il est concentré sur le marché des écrans, hein, en particulier. Et lui, il parle de deux choses. Il parle d'un écran de 20 pouces pliable, mais qui serait juste un moniteur. Et puis, qu'Apple étudierait la possibilité d'avoir aussi, à côté de ça, un portable, donc pliable. Alors, l'écran, moi, j'y crois plus, parce que aujourd'hui, il y a un marché énorme de tous les gens qui travaillent un peu dans la finance ou qui travaillent dans l'ingénierie, etc. Et j'ai vu plein de gens arriver à une réunion avec leur ordinateur portable, quelle que soit la taille, et sortir d'un sac un, puis deux moniteurs et les connecter en USB-C pour avoir trois écrans. Et donc, si tu arrives avec quelque chose de plié, tu le déplies, tu as un 20 pouces, et que tu le connectes sur ton ordinateur, c'est juste magique. Si l'ordinateur, après, est pliable, se pose la question qu'on a évoquée aussi dans i5, est-ce qu'Apple acceptera ou accepterait qu'il soit tactile? Parce que s'il est pliable mais pas tactile, on perd une partie de l'intérêt de cet écran pliable. S'il est tactile, Apple vraiment casserait un des principes sacrés de l'époque de Steve, qui est pas de main sur l'écran. Donc jusqu'à maintenant, ils tiennent. Mais peut-être un jour.
Jusqu'à présent, hein, si c'est un Mac, c'est pas tactile, point.
Ben oui.
C'est ça.
Bon, ça nous fait quelques sujets de préoccupation et d'intérêt d'ici, allez, 2025, sans doute au plus tôt pour un iPhone pliable, et peut-être...
Avant ou après l'Apple Car?
Et les lunettes.
Et plutôt 2026-2027 pour un éventuel Mac portable à écran pliable. Allez, dans un instant, on ouvre le dossier de la semaine, TikTok et ses indiscrétions. À tout de suite. L'appli TikTok, qui appartient à l'éditeur chinois ByteDance, est-elle un cheval de Troie du régime de Pékin pour obtenir nos données et tout savoir sur nos vies? Ok, quand je pose la question comme ça, c'est peut-être un peu dramatisé, mais deux études révélées par le site The Wrap sont particulièrement inquiétante. Ces deux études menées par des experts en cybersécurité, des White Hats qui œuvrent pour le bien commun, ont été achevées en novembre 2020 et en janvier 2021, et donc il y a un peu plus d'un an. Elles confirment que ByteDance a réussi à contourner tout le processus de validation des apps avant publication sur les stores d'Apple et de Google, et est capable de modifier le comportement de l'appli TikTok une fois installée sans le consentement de l'utilisateur pour obtenir les accès aux données de chacun. En réalité, l'app abrite son propre navigateur qui est capable de chercher ce qu'il veut au sein du smartphone. à côté Twitter et surtout Facebook seraient des petits joueurs. On va rappeler que TikTok a passé la barre du milliard d'utilisateurs au mois de septembre et elle envisage maintenant d'étendre la durée des vidéos à 10 minutes pour venir marcher sur les plates-bandes d'un autre réseau social, d'une autre plateforme, YouTube, et conquérir un public de moins en moins jeune. Alors on se souvient que Donald Trump était passé tout près d'interdire TikTok aux États-Unis et curieusement, bah, l'impli, elle est interdite en Chine, comme la plupart des autres réseaux sociaux d'ailleurs, à commencer par Twitter et Facebook. Je vais tout de suite avoir le regard de Fabrice sur ces études, ce qu'elles semblent révéler. Est-ce que installer TikTok sur son iPhone, est-ce que c'est prendre un risque?
Alors, bah, l'étude semble dire ça. Alors, en introduction, je voudrais dire que je n'ai pas de compte TikTok, je n'en ai jamais eu, et je n'ai donc jamais installé l'application. Je suis passé totalement à côté de ce phénomène de réseaux sociaux. Donc, je suis pas sûr d'être la personne la plus concernée et la plus à même d'avoir un avis là-dessus. Il me semble me souvenir que c'est pas la première fois qu'on parle de TikTok comme d'un espion potentiel au sein de son smartphone, qu'il soit iPhone ou Android. C'est quand même le cas de pas uniquement les applis de réseaux sociaux, dès qu'on installe aussi des applis de type messagerie comme WhatsApp et les autres, Telegram, qui sont parfois considérés comme des réseaux sociaux aussi quand ils atteignent un certain nombre d'utilisateurs, ils font d'abord une première chose, c'est de demander en gros d'aspirer le carnet d'adresses pour pouvoir mettre les gens en rapport les uns avec les autres. Donc c'est dès qu'on se connecte à quelque chose en ligne, il y a un certain nombre de données qui transitent. Ce qu'essaye de faire Apple, c'est qu'au moins on soit prévenu. Donc là, en l'état, TikTok semble vouloir contourner des protections mises en place par Apple et Google d'ailleurs. Donc c'est parfaitement condamnable. Le problème qu'on a dans ces cas-là, c'est qu'on a, dans mon métier par exemple, je vais avoir beaucoup de mal à dire aux gens, n'installez pas ça pour protéger votre vie privée. Parce que si on l'installe pas, donc on peut pas l'utiliser et donc on tourne en rond. Et ça ne fait que justifier les efforts d'Apple pour essayer de contrecarrer ce genre de pratique.
François, ton regard sur ce que semble confirmer cette étude ?
Moi, je suis un peu comme Fabrice, je suis passé complètement à côté de TikTok. Je suis même pas sûr d'avoir installé l'application, je l'admets. Je pense que je suis pas la cible, je dois être un peu trop vieux, hélas. Mais c'est toujours embêtant de ce genre d'informations, je trouve. Et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Fabrice justement. Il y a pas longtemps encore, j'ai eu des suggestions de comptes sur Instagram et j'étais assez dubitatif parce que j'ai dû à un moment, que ce soit par Facebook ou autre, mettre mon carnet d'adresses, le synchroniser, ce qui fait que j'ai des suggestions de gens. Je comprends pas pourquoi ça apparaît là, si ce n'est que ça passe par le carnet d'adresses. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail de sensibilisation à faire sur ces données-là et sur le fait que quand on installe des applications, bah, il faut bien prendre le temps de lire ce qui est noté. On en reparlera tout à l'heure quand on évoquera les mises à jour avec le AirTag par exemple. Il y a vraiment un gros travail de pédagogie à faire pour qu'on se rende compte que quand on installe une application, l'application va avoir accès à ces données. Et ces données-là, bah, c'est peut-être embêtant qu'elle y ait accès, quoi. Et finalement, TikTok a sans doute trouvé une solution pour récupérer ces informations-là et d'autres. Et ça, c'est vraiment dommageable. Mais c'est assez cocasse, je trouve, comme tu le disais en préambule, de voir une application qui est interdite sur le territoire chinois, et Pékin en profite quand même pour réussir à récupérer des informations dans les autres pays, alors qu'eux-mêmes ne permettent pas à leurs citoyens de l'installer, quoi. C'est un côté assez cocasse.
Alors, ce que tu dis est intéressant, mais évidemment, tout ce que fait l'appli n'est pas mentionné dans les messages qu'on ne lit pas en l'installant. Hein. Sinon, tu penses bien qu'elle n'aurait pas passé les contrôles chez Apple.
Ce qui est encore plus dommageable.
Ellie, ton sentiment sur la vocation de TikTok, au-delà d'être un succès business, purement business pour ByteDance?
Ben écoute, le problème, c'est que la Chine, de ce côté-là, a une vision qui est complètement différente de la nôtre. Pour eux, c'est totalement normal et légitime d'aspirer des données, ils s'en privent pas. La preuve, c'est que tous les routeurs Huawei, des routeurs 4G, 5G, etc., alors qu'ils sont là simplement pour router du trafic, piquer des données, les envoyer, ils ont été interdits dans plein de pays, y compris la France, hein, au niveau de la 5G, parce que les experts en sécurité ont prouvé que c'était des aspirateurs de données. Et le routeur, toutes vos infos passent par là. Hein, donc, mais pour la Chine, c'est normal et c'est de bonne guerre. Donc, que des applications qu'ils fabriquent et qu'ils exportent récupèrent des données pour les besoins du Parti communiste chinois, c'est logique. Mais par contre, ça peut être gênant de les récupérer sur des utilisateurs chinois, donc ils interdisent chez eux. Mais ça, c'est logique aussi. Donc, c'est vraiment une politique d'État. Et contre ça, à part des décisions d'État, encore une fois, donc les États-Unis ont essayé de le faire, la France pourrait le faire un jour, si c'était le cas. Mais je pense pas qu'au niveau d'une société... Alors, le problème avec Apple et Google, c'est que eux mettent des barrières, mais ce qu'on semble lire, c'est que ils réussissent à les contourner. C'est-à-dire que vous pouvez, si l'application vous le demande, dire « j'autorise la synchronisation de mon carnet d'adresses ou pas ». Mais de notre côté, si l'application vous le demande pas et qu'elle détourne votre carnet d'adresses et le reste, ben la question c'est est-ce que le sandboxing d'Apple qui est censé éviter ça sans votre accord est contourné vraiment ou et dans ce cas ils sont assez forts. Et en fait, pour résumer tout ça et reprendre une vieille publicité que vous avez tous entendu, on pourrait dire que c'est OK du TikTok, on la tactique. Attention.
Est-ce qu'Apple, sachant un petit peu l'envers du décor, qu'est-ce qui empêcherait Apple de dire, ben, comme pour Fortnite, TikTok, plus
chez nous. D'utilisateurs. C'est le nombre d'utilisateurs et la popularité de l'app chez les jeunes. Moi, je t'avoue que suite à une émission, on avait parlé de zone interdite sur les jeunes et TikTok. Je l'ai installé parce que je voulais comprendre ce que c'était. Parce que à mon époque, mes enfants, eux, c'était pas la génération TikTok. Mais la génération actuelle, c'est TikTok, c'est l'application qu'ils ont tous. Et donc, je l'ai installé pour essayer de comprendre. Je n'ai rien compris. J'ai essayé de faire des choses. Je n'ai rien compris. Et j'ai fini par la désinstaller. Donc, elle n'est plus sur mon téléphone. Je l'ai gardé 48 heures. Peut-être que ils en ont profité largement pendant
ces 48
heures.
Oui, ça a suffi, Élie.
J'ai essayé de comprendre.
Et tu penses, Fabrice, que le succès de TikTok est tel que Apple ne peut pas la supprimer de l'App Store?
Mais bien sûr, et c'est comme parce que on est à des niveaux un peu comme Facebook. Rappelons que Facebook aussi a essayé de faire des tours de passe-passe régulièrement pour contourner des limitations. Il y a plusieurs années de ça, Facebook, l'application n'avait pas le droit de tourner en tâche de fond parce que ça consommait beaucoup d'énergie, donc elle faisait partie des applications qui n'avaient pas le droit de tourner en tâche de fond. Et pendant quelques temps, Facebook avait fait en sorte de s'inscrire sur l'iPhone comme une application audio en faisant tourner un son silencieux en permanence et l'audio ayant lui le droit de tourner en tâche de fond, du coup l'application Facebook pouvait continuer à tourner en tâche de fond. Ça contrevenait totalement aux édicts d'Apple, mais ils l'ont fait pendant quelques temps. Mais ensuite, une appli qui fait ça, qui s'appelle pas Facebook, se fait sortir de l'App Store en 3 secondes. Facebook, on dit c'est pas bien, on tape sur la main et puis ensuite on dit bon allez vous changez, soyez gentils, mais on n'enlève pas Facebook. Et je pense que c'est pareil pour TikTok, on n'enlève pas TikTok. Non, bien sûr que non.
Bon, on va suivre ce qui va se passer autour de cette appli qui évidemment est devenue un phénomène auprès des jeunes, ceux parmi nous qui ont des enfants, des ados dans notre périmètre savent que TikTok est évidemment installé sur leur smartphone. On va suivre les développements autour de ces deux études. Dans un instant, on va parler d'un autre produit qui a sans doute été conçu en Chine. Ce sont des écouteurs. Ils sont Bluetooth. Ils sont peut-être des concurrents pour l'AirPods et ils ne coûtent que 17 euros. Le test de la semaine. Alors j'avoue, Fabrice, quand tu m'as proposé un test d'écouteurs à 17 euros, j'ai adoré l'idée. Bon, peut-être que tout le monde n'est pas au courant de leur existence. Alors, de quoi s'agit-il? Dis-nous tout.
Alors, il s'agit donc, et en plus, donc, d'écouteurs sans fil, true wireless comme les AirPods, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants l'un de l'autre. Alors, pour ceux qui ont la vidéo, je vais les montrer à la caméra pour voir un peu la différence. Je les montre l'un en... Alors, c'est un peu flou.
On voit les deux boîtiers de recharge.
Je les compare en fait. À une... Voilà, voilà. C'est le boîtier de recherche, effectivement. Je les compare à des AirPods Pro. Je m'empresse de dire que je vais plutôt les comparer à des AirPods tout court, parce que ce sont des écouteurs qui, malgré tout, pour ce prix-là, n'ont pas la fonction d'annulation de bruit.
Oui.
Mais donc les AirPods Pro, les AirPods 3, pardon, voilà, je me plante aussi, coûtent 200 € sur l'Apple Store aujourd'hui. Et donc, ce que j'ai montré à l'écran, ça coûte 17 €. Et donc maintenant je vais juste montrer à quoi ça ressemble à la caméra. Voilà, c'est un petit peu difficile à montrer.
Ouais.
Voilà. Bon, ah c'est
assez long. T'en as un dans l'oreille. Hein.
Dans l'oreille.
T'en as un dans l'oreille.
J'en ai un dans l'oreille en ce moment. Voilà, absolument. Donc c'est
un
comme
peu plus
les AirPods.
Gros que les AirPods. C'est un peu plus gros. Hein.
C'est un peu plus gros. Tout est légèrement plus gros. La boîte est un petit peu plus légère. On sent qu'il y a un peu de vide. Si je mets devant le micro et que je bouge. Ça bouge un peu. Voilà,
un peu
en qualité de fabrication, on n'est pas au niveau. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, les AirPods Pro que j'utilise sont très bien, mais ils ont tendance à m'agacer un peu parce que pour le prix qu'ils ont coûté, je considère qu'ils devraient être parfaits, ils ne le sont pas. Il y a des problèmes de connexion de temps en temps, des problèmes de synchronisation entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Il faut les remettre dans la boîte en ce qui me concerne, c'est ça que je suis obligé de faire pour les réinitialiser pour qu'ensuite la musique ou le podcast soit synchronisé entre les deux oreilles. Donc moi ça me fait un peu mal de me dire que j'ai acheté des trucs à 230 € quand je les ai achetés ou choses comme ça, et c'est pas parfait. Alors j'ai un copain qui m'a dit mais tu sais, il en existe des beaucoup moins chers. Je dis bah oui, et puis il m'a donc dit 17 € chez Lidl. J'ai trouvé ça quand même intéressant, et d'autant plus que on était au téléphone, il m'appelait avec, j'ai trouvé que le son était pas mal, donc même le micro est pas mal. Donc ça c'est pour la petite histoire. Et donc effectivement, ben voilà, on achète ça. Alors toujours pour comparer aux AirPods, le boîtier est pour les 17 €, le boîtier est même compatible chi pour la recharge. Quand même balèze.
Hein. Pas mal.
Donc c'est quand même assez étonnant. Alors, il n'y a pas de bouton sur le boîtier pour les appairer. Quand on les ouvre, il ne se passe rien. Quand on ouvre le boîtier, il ne se passe rien sur l'écran de l'iPhone ou d'un Android. J'ai testé aussi. Il faut les sortir. Ils s'allument quand on les sort de la boîte. On les met dans l'oreille, ça fait ding-dong. Et puis ensuite, on va dans, classiquement, comme on a toujours fait avec des écouteurs Bluetooth qui ne sont pas Apple, on va dans la configuration Bluetooth de son téléphone et puis on dit qu'on veut les appairer. On en appaire un puis l'autre, c'est assez marrant. En fait, en gros, ça veut dire que les AirPods font la même chose, mais ils s'en occupent pour nous. Une fois que les deux sont jumelés, ils fonctionnent ensemble. Voilà. Ils ont la détection de l'oreille, c'est-à-dire que si on en enlève un, la musique ou le podcast s'arrête et recommence quand on les met. Ils ont des commandes tactiles. C'est-à-dire quand on touche une fois, une demi-seconde, il va faire pause. Quand on retouche, il va relancer. Quand on fait un appui long à droite, il va avancer d'une chanson. Quand on fait un appui long à gauche, il va reculer d'une chanson. Donc il y a quand même plein de trucs qui sont assez incroyables pour, je vous rappelle, 17 €. Voilà. Alors, Benjamin, tu faisais référence au fait que j'avais eu un peu de mal à les tester. Alors effectivement, on sera pas étonné de savoir que la qualité de fabrication est quand même... pas terrible. J'en ai eu une première paire. Quand je suis revenu à la maison, j'ai pas réussi à faire fonctionner un des écouteurs. Il n'a jamais fonctionné. Je suis retourné au magasin. On m'a remboursé son rubis sur l'ongle. Pour l'anecdote même, c'est 16,99 €. Ils m'ont remboursé 17 € parce que j'avais pas un centime d'euro à leur redonner. Et puis je suis allé dans un autre magasin. J'ai pris une autre paire et il marche. J'ai eu un souci au bout de 3 jours. Il y a un des écouteurs qui a cessé de fonctionner. J'étais un peu embêté, et puis à force de triturer, il y a des petites diodes sur chacun des écouteurs qui sont mises à clignoter dans tous les sens, ils ont dû se réinitialiser, et hop, ça marche. Voilà. Voilà. Alors maintenant, en termes de qualité sonore, c'est un peu en deçà des AirPods, c'est évidemment, mais c'est chouette, c'est bien. Pour des podcasts, par exemple, c'est absolument parfait. Pour de la musique, alors ne comptez pas sur l'audio spatial naturellement, mais ça fait le job quand même. Pour les micros, je les ai déjà évoqués. Alors, on peut parfaitement avoir une conversation téléphonique avec et ça fonctionne bien. Donc c'est quand même étonnant d'avoir tout ça pour 17 euros. Ouais. En termes d'autonomie, ils sont annoncés pour 4h30. En les portant sans interruption, en écoutant un podcast, je suis plutôt arrivé à 3h, 3h10, pas à 4h30. Le boîtier de recharge essentiel est rechargé 4 fois. À mon avis, si on arrive à 3 fois, on sera bien content. Voilà. Donc, on est bien d'accord, hein, c'est en deçà des AirPods, mais est-ce que je vous ai dit que ça coûtait que 17 euros ? Voilà. Donc, c'est vraiment toujours le gimmick, quoi. C'est pour 17 euros, donc c'est difficile pour Apple. On parle souvent hein, des prix élevés d'Apple, un peu plus élevés que la moyenne, mais du coup, les AirPods 3 à 200 euros, comparé à des choses comme ça, c'est vraiment très très cher et pas forcément très très supérieur. Hein. C'est supérieur, c'est évident, mais pas tant que ça. Voilà. Donc,
pas 12 fois supérieur.
Franchement, voilà, exactement, pas 12 fois supérieur. Donc voilà, c'était un peu aussi pour moi pour mettre en perspective les AirPods avec d'autres choses qui offrent des fonctions à peu près similaires, enfin qui sont comparables en tout cas, avec une qualité assez étonnante pour ce prix-là. Alors, je vous en reparlerai dans 6 mois pour voir si peut-être la batterie ne tient plus 3 minutes, des choses comme ça. Hein. Il y a des choses là que je ne peux pas vous dire en ne les ayant testées que quelques jours. Voilà, donc le test est quand même plutôt positif malgré tout, malgré les quelques soucis que j'ai eus, puisque finalement, ils fonctionnent. Je les utilise là pendant que nous enregistrons l'émission. Et ça marche bien, je les ai connectés à un iPhone, je les ai connectés à mon Apple TV, à un Android, à mon Mac. C'est plus difficile de passer d'un appareil à l'autre dans le monde Apple parce qu'il n'y a pas la puce U1, etc. Mais voilà, est-ce que je vous ai dit qu'il coûtait que 17 euros ?
Voilà. C'est ça.
C'est vraiment.
Votre sentiment, les garçons, Élie, François, sur ces écouteurs Lidl Silvercrest ?
Bah, il faut les écouter. Ça demande un test un peu plus long, mais
je pense à des enfants qui voudraient des écouteurs. Après tout, pourquoi pas? C'est vrai que il y a des personnes qui ont eu tendance à faire passer leurs AirPods à la machine un certain nombre de fois, ça fonctionnait plus, qu'ils les perdent et ainsi de suite. L'avantage c'est qu'à 17 balles, bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous perdez un écouteur quoi. Après, je suis toujours inquiet sur ce genre de produit, j'ai toujours peur de la durée de vie. Alors même si on peut pas dire que la durée de vie des AirPods soit vraiment énorme dans la mesure où, enfin moi j'ai les premières générations, c'est vrai qu'au bout d'un an, j'ai un des écouteurs qui tenait plus trop en batterie. Donc quand on paye un produit 180 euros, c'est embêtant. Quand on paye un produit 17 euros, bon ça peut être compréhensible quoi. Mais Lidl, ils sont très très bons, quoi. Quand on voit tous les produits qu'ils lancent, le fameux Monsieur Cuisine, là, qui a eu un succès de Barjo, on rigolait en antenne sur les sneakers, les chaussures Lidl aussi, qui se sont arrachées. Enfin, ils sont très très bons, quoi.
Ouais. En fait, ils ont plusieurs marques, mais jusqu'à maintenant, la marque Silvercrest est plutôt de bonne qualité. Souvent, les produits sont allemands, d'ailleurs, Silvercrest.
Puisque c'est un test, Fabrice, ouais. Les plus, les moins, et puis une note à Alors... sur 5.
Alors les plus, les moins, alors donc le premier plus, le prix évidemment. J'ai déjà parlé de la charge, je note aussi que le boîtier est USB-C, qui est vraiment un plus à mon avis par rapport aux AirPods, et donc la qualité des micros. Pour les moins, c'est la qualité de fabrication naturellement, la fiabilité globale un peu douteuse sur le long terme, donc on en reparlera, puisque j'ai quand même déjà eu un peu des soucis. En termes de qualité sonore, c'est pas mal. Alors je parlais tout à l'heure des problèmes de synchronisation entre la gauche et la droite sur les AirPods. Là, de temps en temps, il y a un effet un peu bizarre où on a l'impression que la stéréo bouge de gauche à droite le temps qu'il se recale. C'est assez étonnant. Donc de temps en temps on écoute un podcast et puis on a l'impression que les gens bougent quoi. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est pas tout le temps, bon, enfin voilà, clairement, s'il n'y a pas la puce U1 pour s'occuper de tout ça. Et donc c'est un peu moins pratique que les AirPods pour les connecter sur plusieurs appareils, ça c'est un plus indéniable. Donc je mettrais bien, j'hésite entre, malgré tout entre 3 et 4 pour la note. Et je pense que je vais mettre 4 parce que donc le prix naturellement qui joue beaucoup beaucoup et le fait aussi que
mais
le copain qui m'en a parlé lui il en a mais je ne l'ai pas encore dit hein. Comment ça ça coûte donc que 17 euros est-ce que je vous l'ai déjà dit non voilà et donc j'ai un copain qui en a acheté déjà 6 paires et lui il m'a dit que parce qu'il les offre à droite à gauche qu'il a eu zéro problème avec et donc voilà pourquoi je vais pencher pour mettre 4 sur 5 pour ces écouteurs.
Eh bien, merci Fabrice Neumann pour ce test de la semaine donc consacré aux écouteurs True Wireless Bluetooth de chez Silvercrest qu'on trouve donc chez Lidl à 17 euros.
Et notez qu'il s'agit des STSK 2E5. Ne pas se tromper sur le modèle.
On parle toujours d'une keynote le 8 mars, qui n'est pas officielle, elle n'a pas été confirmée par Apple. Ça pourrait intervenir n'importe quand, à partir de maintenant. À votre avis, d'ailleurs, cette confirmation, elle pourrait arriver quand, les garçons ?
Bah, minimum,
à mon avis, elle est arrivée entre le moment où on a enregistré et le moment où on est diffusé, où vous nous écoutez. Moi, je mets une pièce là-dessus pour le fun.
Tu crois ? Moi, je la vois bien lundi, la confirmation, non ?
Lundi ou mardi ?
Ouais.
Et mardi, c'est une semaine avant. Hein, donc,
ouais, une semaine avant. Ils n'ont pas tellement besoin de faire plus, hein, maintenant que c'est là. C'est évidemment en vidéo aussi, celle-là. Donc, il n'y a pas d'invitation plus que ça à faire. Une semaine, ça suffira.
Bah oui. Alors, bon, sur le contenu de cette keynote, on ne parle même plus de l'iPhone SE qui est quasiment certain. iPad Air, idem. La grosse incertitude, ça reste quand même les Mac. Le Mac, les Mac, lesquels ? Ça change à peu près tous les deux jours. Depuis 24 heures, c'est le MacBook Air qui est à nouveau au programme sur les différents sites d'actu dédiés à Apple. On a parlé de MacBook Pro toute la semaine dernière. Il y a aussi toujours l'iMac qui traîne et le Mac Mini, on n'en parle même plus. Alors, où est-ce que vous en êtes, les garçons ?
Dans la logique, maintenant, ça commence à se rapprocher de ce qu'on disait. C'est-à-dire que le premier produit qui devrait être annoncé en M2, ça doit être un MacBook Air. À partir du moment où on a dit MacBook Air M2, derrière, on peut annoncer un MacBook Pro 13 M2 si on veut. On peut annoncer un iPad Pro M2. Ça, c'est logique. Si on commence par annoncer un des autres produits sans avoir parlé du MacBook Air, les gens vont se dire, mais pourquoi ? Mais le premier produit M1, c'était le MacBook Air, c'était le fleuron. Donc c'est par lui que ça doit commencer.
Alors, je te rappelle que la semaine dernière, nous disions avec notre ami Frédéric Crassa, et c'est sa théorie, c'est qu'il n'y aura pas de M2 le 8 mars.
Oui, et comme il le faisait remarquer sur Twitter, ça a été en partie repris par les gars de la chaîne MaxTech, Vadim, avec qui il est en contact, comme il nous le dit. Difficile de sortir le M2 avant le reste de la transition de la gamme quand même très clairement hein. c'est difficile parce que c'est incompréhensible et ça le problème pour Apple c'est que Apple raconte toujours une histoire pour dire c'est mieux que si c'est mieux qu'avant etc et un M2 dans l'esprit de tout le monde ça va être mieux qu'un M1 même s'il est pro ou max M2 ça va être mieux ce qui sera pas le cas. Donc, à mon avis, c'est difficile de sortir le M2 tant que la gamme n'est pas terminée.
François.
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Allez.
C'est la soirée des paris. Moi, à mon avis, on aura le droit à un nouveau MacBook Pro 13 pouces qui va remplacer le 13 pouces actuel. Pourquoi ne pas imaginer mettre une petite pupuce M1 Pro après tout ? Parce que si c'est un MacBook Pro, ça paraît très logique. Et puis, à mon avis, on aura le droit à un nouveau Mac Mini avec une puce aussi M1 Pro, histoire de donner un petit coup de jeunesse à ces deux machines. Et à mon avis, ce sera tout. Il n'y aura pas autre chose. Et le reste viendra après. Et je rejoins complètement, je pense que la puce M2, on la verra peut-être pas avant le mois de septembre.
Je vous rappelle que Mark Gurman, lui, nous annonce au moins un Mac lors de la keynote du 8 mars. Une deuxième salve d'annonces avec des Mac en mai ou en juin. Et juin, ça pourrait correspondre à la WDC. avec peut-être
iMac Pro, Mac Pro.
Pro, oui.
Et,
c'est ça.
Et iMac 27, peut-être.
C'est ce que je dis, iMac Pro.
Ah, c'est ça. Ellie, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Parce que tu n'es pas d'accord, tu ne partages pas ce sentiment sur le fait que le M1 va vivre sa vie jusqu'au bout, en fait.
Bah, en fait, non, parce que le M2, tous les analystes qui commencent à en parler en détail, parce qu'on a commencé à voir les specs sur le nombre de cœurs, sur la vitesse, etc., il commence à y avoir beaucoup d'infos qui sortent sur le M2 dernièrement, donc il semblerait vouloir dire qu'Apple a rattrapé son retard, disent que de toute façon, le M2 sera mieux que le M1, mais moins bon que le M1 Pro et que le M1 Max. Donc, c'est juste une évolution de l'entrée de gamme, qui ensuite sera complété par une évolution du haut de gamme en M2, mais pas tout de suite, puisqu'il y a eu quand même un décalage. Par contre, sinon, ça bloque une partie de la gamme. C'est-à-dire que l'iPad Air, il n'y a aucun doute, lui, il est quasiment certain, mais est-ce que l'iPad Pro va changer? Parce que ce serait totalement impossible qu'Apple sorte un iPad Pro M2 si le MacBook Air n'est pas M2. C'est-à-dire que la gamme M2 ne peut pas démarrer par un iPad, ce n'est pas possible. Et donc, à un moment donné, ces produits ils doivent évoluer. On ne peut pas attendre la fin de la transition si les produits sont prêts. Parce que Apple perd beaucoup d'argent si le MacBook Air n'évolue pas, si, alors qu'il est prêt, si l'iPad Pro n'évolue pas alors qu'il est prêt. Donc, on avait tous dit ça sortira en septembre-octobre. Mais maintenant, si les produits sont prêts, si les processeurs sont prêts, pourquoi ne pas transitionner? Ça fait le M1 sur MacBook Air, ça fait maintenant un an et demi. Hein. Ouais. Donc,
j'adore parce que c'est dans 10 jours et on n'en sait toujours rien et on n'est même pas d'accord entre nous. J'adore. Donc Fabrice et François.
Juste, Ellie faisait référence à l'iPad Pro qui est sorti avec la puce M1 qui est sortie un peu plus tard. Donc l'iPad Pro, les iPads en général sont pas tellement sur un cycle d'un an. Hein. Globalement, ils sont plutôt sur un cycle de 18 mois. Donc l'iPad Pro, il peut attendre sans problème. Si on considère qu'effectivement Apple était un peu en retard sur les puces, ils peuvent attendre encore. Même si le M2 est prêt, ils peuvent attendre un peu. Moi, je verrais plutôt quelque chose comme le MacBook Air étant entre guillemets le produit d'Apple. Il pourrait peut-être faire un truc genre un redesign du MacBook Air avec une phrase comme j'aime bien citer souvent à la Phil Schiller. Nos ingénieurs ont réussi à le faire encore un peu moins cher. Regardez comme c'est beau. On a enlevé 100 balles. Et ça suffira pour faire un MacBook Air qui donne envie, hein, s'il est dans un nouveau design avec un peu de couleur, par exemple. Le MacBook Pro 13 pouces avec le M1 Pro dedans, comme disait François, moi j'y crois beaucoup, effectivement. Ça permet de, en termes de positionnement de gamme, je pense qu'Apple a vraiment envie et besoin d'avoir cet appareil-là en termes de prix. Donc ils vont le garder.
Avec ou sans touch bar et avec quel design?
Moi, je pense qu'ils vont garder le design actuel, mais sans la touch bar. Parce qu'il y a déjà eu, en fait, le design actuel, il a existé sans la touch bar. Donc, ils ont les plans, ils peuvent le faire.
Mais ils ajoutent des ports ou pas? Parce que ça a été quand même l'une des critiques du premier MacBook Pro 13 pouces.
Oui, c'est une des critiques, mais du coup, quand t'en veux plus, tu prends plus cher. Voilà, là, ils occupent c'est une stratégie de pricing, comme on dit en bon français. On garde un MacBook Pro avec un peu plus de puissance et puis ça suffit, quoi. Et le Mac Mini avec le M1 Pro, ils ont peut-être envie de le faire, j'en sais rien. Moi j'aimerais bien le voir, je suis pas persuadé parce que jusque là le Mac Mini a jamais été vraiment mis à jour rapidement, régulièrement. Donc ils seront peut-être contents avec le Mac Mini actuel pendant 3 ans et puis c'est tout, hein. Donc ça j'ai un doute avec ça.
Et si le MacBook Pro évolue là le 8 mars et pas le MacBook Air, est-ce que ça risque pas de créer justement un gros écart entre les deux modèles?
C'est ce qu'il faut.
C'est l'entrée de gamme. C'est ce qu'il faut, c'est l'entrée de gamme, tout va bien.
N'oubliez pas quand même que ces machines-là s'adressent aussi et entre autres à un marché d'éducation qui est prioritaire pour Apple, que les écoles commandent ces produits très en avance de phase. François le sait, et aux États-Unis particulièrement, Apple faisait des keynotes au mois de mars pour préparer des commandes qui vont arriver plutôt mai-juin pour la rentrée. Donc si Apple annonce des produits en octobre-novembre, ça veut dire qu'il rate la rentrée aux États-Unis, donc il rate un marché énorme si les produits ne sont pas après. Bon, c'est la question, c'est est-ce que le M2 est prêt et en quantité suffisante? S'il est prêt, tout est possible. S'il n'est pas prêt, Apple fera du bouche-trou avec, en annonçant un produit, un Mac, qui pourrait être le 13 pouces, etc. Mais à partir du moment où le M2 est prêt, tout peut être déroulé très vite.
Bonsoir.
Je rejoins complètement ce que disait Fabrice. Le seul truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est l'histoire des ports. Je pense qu'ils pourraient rajouter, essayer de rajouter un petit HDMI, un petit lecteur de cartes comme ce qu'on pouvait avoir sur le MacBook Pro il y a quelques années, qu'on a retrouvé sur les 14 et 16 pouces pour vraiment distinguer la gamme justement. Je pense que la différence pourrait se faire sur la taille d'écran et sur la qualité de l'écran. Évidemment, ce sera pas l'écran du MacBook Pro 14 pouces, parce que le but c'est justement que ce soit une vraie gamme qui soit distinguer les postes les uns des autres quoi. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui manque. Et le MacBook Pro 13 pouces, il a rien à foutre là quoi. Enfin, entre un MacBook Air et un MacBook Pro, moi, tous les gens qui me disent ah faut mieux prendre le Pro, bah non, prenez pas le Pro, ça sert à rien. La Touch Bar, elle sert à rien. Le processeur c'est le même, donc prenez le MacBook Air milieu de gamme avec les 8 cœurs graphiques et c'est tout quoi. Ça sert à rien de claquer 300 ou 400 balles de plus, honnêtement.
Je pose une question périphérique à tout ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'Apple en fait fait du très bon boulot en ce moment en envoyant des infos contradictoires à différents
oui,
relais
oui,
d'informations?
Oui, absolument.
Oui.
Hein, Apple se fout bien de notre gueule.
Bon, en tout cas, ça nous donne du grain à moudre, comme on dit. Bon, on passe à la deuxième info de ce POMES. Alors, c'est une info sur laquelle on va pas passer très longtemps, mais c'est une info importante pour ceux qui sont clients des produits reconditionnés. Le journal officiel a publié un décret qui interdit désormais d'utiliser les mentions « comme neuf »,« remis à neuf » ou « est à neuf ». L'idée, c'est d'éviter que le consommateur ne soit induit en erreur, trompé par des mentions qui ne correspondent pas à la réalité. Et ce décret définit ce qu'est un produit reconditionné. C'est un produit qui a subi, j'ouvre les guillemets, des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre. Un produit qui doit avoir subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Et cette intervention inclut notamment la suppression de toutes les données enregistrées. On en parlait avec Ellie dans i5 il y a quelques jours. Peut-être votre sentiment, Fabrice et François, sur cette mise au point, finalement.
Faire mise un peu au point de ménage, qui est bienvenue. Oui, la mise au point est bienvenue. Moi, j'aurais envie juste de rebondir sur le dernier point qui inclut la suppression de toutes les données enregistrées. Si ce n'est pas l'utilisateur qui le fait pour un iPhone, le reconditionneur ne pourra rien y faire. Donc ça me surprend un peu. Je ne sais pas s'il y a, j'ai pas regardé, hein, s'il y a des précisions supplémentaires, mais cette intervention-là ne peut pas être faite par le reconditionneur.
Mais oui. Ça veut dire que ça pourrait être une des conditions pour pouvoir reprendre un téléphone amené à entrer dans un circuit de reconditionnement?
Oui, mais ils le savent tous. On pourrait poser la question à Yes Yes. Nous, quand on reprend un produit, tous nos commerciaux, même les débutants, la première chose qu'ils regardent, c'est la localisation. Et ils ne prennent pas le produit si le produit n'est pas délocalisé, c'est-à-dire potentiellement effaçable. S'il y a un compte iCloud actif et si le produit est localisé, on ne le touche pas. On le rend au client, lui dit « Monsieur, il faut le débloquer ». Avant de l'envoyer chez un broker, etc. Donc c'est notre boulot. Si c'est envoyé en direct, c'est aussi le boulot du broker. S'il voit un produit bloqué, il le retourne au client. Ils ne peuvent pas prendre le risque.
Ouais, très bon point. François ?
Pas spécialement d'opinion sur ce sujet-là. C'est surtout, en fait, moi je repense à tout ce qu'on peut voir, les arnaques qu'on peut voir sur Le Bon Coin ou des gens qui vendent des téléphones qui ne sont pas correctement débloqués, enfin, la localisation est désactivée, donc Après, c'est toujours pareil, ça dépend des reconditionneurs, ça dépend de plein de paramètres. C'est compliqué d'avoir une politique de base maintenant. Moi, c'est vrai que je conseille souvent les produits reconditionnés, mais Apple, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment, eux, des produits neufs, quoi. J'en parlais encore aujourd'hui, on me dit « Ah, je vais acheter un MacBook Pro d'occasion 2015 à 600€ sur le back market. » Je fais « Ah non, surtout pas, faut pas acheter ça. Pour 350 balles de plus, t'as un MacBook 350 balles de plus, je me reprends, t'as un MacBook Air M1 sur le refurb d'Apple. Non, c'est attends 6 mois, mets 50 balles de côté tous les mois et prends-toi une vraie machine qui tiendra la route et qui durera dans longtemps, quoi. »
Ça, c'est un bon conseil. Et puis la troisième info dont on voulait vous reparler dans Pommes aujourd'hui, bah, c'est le pactole de Joe Rogan. Hein, parce qu'on a longtemps cru pendant des mois qu'il avait signé chez Spotify pour 100 millions de dollars, mais en fait c'est 200 millions et sans doute plus le montant du contrat qui a été négocié en mai 2020. Alors dans le contrat, il y avait aussi le fait qu'il allait quitter YouTube. Donc effectivement, il est complètement exclusif désormais à Spotify. Mais du côté de Spotify, hein, c'est devenu la poule aux œufs d'or, puisque Joe Rogan Experience est le podcast numéro 1 dans 92 pays, dont les États-Unis, et certains épisodes affichent des dizaines de millions d'écoutes. Fabrice, c'est des chiffres qu'on n'attendait pas à connaître dans l'univers du podcast quand même, non ?
Alors, c'est ce que j'allais dire. Pour l'univers du podcast, c'est étonnant, mais enfin, ça l'est de moins en moins, c'est-à-dire que... jusqu'à présent, une des définitions du podcast, c'était tiens, c'est une émission de radio qu'on peut écouter en replay. Maintenant, je pense que ça se développe suffisamment pour dire qu'une émission de radio, c'est un podcast qu'on écoute en direct. Et ça montre ça, hein, c'est-à-dire que Joe Rogan, il a montré qu'il avait un intérêt pour des investisseurs, un intérêt pour des annonceurs, et donc on le paye à la valeur qu'il rapporte. Voilà, donc il doit y en avoir d'autres hein, qui atteignent peut-être pas ces niveaux-là. Des contrats comme ça, c'est souvent secret, ça sort plus tard. On en apprendra d'autres. Hein. J'ai un souvenir, ça me fait penser à... comment s'appelle cet acteur américain ? Pendant le confinement, il avait lancé un podcast vidéo pour donner des bonnes nouvelles. John Krasinski, qui fait une série là sur Amazon, je crois. Et puis, il a lancé ça avec un peu de production, etc., parce qu'il a des moyens, et il s'est fait racheter ça par CBS ou je sais pas quoi, un réseau américain, ouais. Pour, pareil, 60, 80, 90 millions de dollars, enfin, plus des dizaines de millions de dollars. Donc, le podcast est quand même sorti de sa zone d'ombre depuis longtemps maintenant. Hein, le podcast, beaucoup en écoute et ça monte vraiment beaucoup en France aussi. Voilà, c'est des chiffres comme ça, on va en atteindre beaucoup maintenant.
Ouais. Eddie ?
On va se faire racheter par Samsung, vous pensez, non ?
Oui, par Samsung, c'est sûr. Eddie ?
Ce qu'on peut retenir en fait de tout cet épisode Joe Rogan, c'est qu'une fois que les passions se sont un peu calmées, que les polémiques des anti-Rogan, des pro-Rogan, etc., ce qu'on peut conclure, c'est que dans tous les cas, ça a été un énorme coup de pub pour Spotify et pour le podcast en particulier, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, il est passé numéro 1 dans 92 pays, ce qui est incroyable. Moi, en tout cas, j'en avais parlé, je ne le connaissais pas avant et j'ai écouté quelques épisodes pour me faire une idée. Est-ce qu'il ne raconte que des conneries ? Est-ce qu'il raconte que des fake news ? Et pas du tout. C'est très agréable. Le mec est très sympa. Je dis pas que je l'écoute toutes les semaines, mais de temps en temps, ça me gêne pas de l'écouter. Donc j'ai au moins découvert ça, entre autres. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la même chose. Donc coup de pub pour Spotify et Joe Rogan. Et donc ça compense certainement le prix qu'il le paye.
Elles sont arrivées mardi soir. Mardi soir, c'est le soir des bêtas. Hein. C'était comme la semaine dernière, bêta 3 la semaine dernière, bêta 4 cette semaine. Donc iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS 12.3, WatchOS 8.5, tvOS et même le HomePod. Tout le monde a été servi. François, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces bêta 4 ? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté du côté d'iOS, peut-être ?
Alors, il y a deux grosses nouveautés. Alors, il y a une nouveauté qui va pas trop trop nous concerner dans un premier temps, parce qu'hélas, c'est réservé aux États-Unis. Il y a une cinquième voix déjà sur, pour Siri aux États-Unis, donc qui s'appelle Queen. Alors, je ne sais pas si c'est un docteur ou pas, mais ça, on le saura plus tard, je pense. Et puis, l'autre petite nouveauté, mais qui est pour moi assez importante, maintenant, quand vous allez rajouter un AirTag, vous allez avoir vraiment un dialogue qui vous indique que vous n'avez pas le droit de, d'utiliser le AirTag pour pister quelqu'un. C'est uniquement pour des objets, et que si par hasard vous l'utilisez pour pister un individu quelconque, et ben dans ces cas-là, vous pourrez avoir éventuellement des poursuites selon les pays où vous êtes. Et ce message-là est mis clairement, et comme j'ai eu l'occasion de le dire dans Hi5 hier, je trouve ça très bien de la part d'Apple. Au moins, on sensibilise. C'est un moyen pour eux de se protéger, je pense, mais ça rappelle les choses quand même, ça pose les choses, et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et le dialogue est léché, enfin, c'est joli, je trouve, à voir, à l'image de tout ce que propose Apple, avec les petits pop-up qui apparaissent dès que vous rapprochez un nouveau produit Apple compatible à côté de votre téléphone.
Bon, je crois que tu as aussi de gros espoirs avec la mise à jour pour les HomePod.
Ouais, alors je l'ai dit, moi je trouve que Siri est particulièrement mauvais en ce moment sur mes HomePod, c'est dramatique. Ma compagne n'arrête pas de se battre, et partout, que ce soit des HomePod mini ou des HomePod classiques. Puis moi j'ai un souci qui a été relevé, il y a eu un article sur Mac Génération, j'ai un de mes HomePod qui claque. Je sais pas si vous avez vu passer la news sur MacG cette semaine.
Je l'ai vu, mais...
En fait, il y a des soucis de HomePod qui claquent.
Et moi je l'ai chez moi, ouais.
Toi ça aussi, claque ouais. Chez toi aussi.
Et c'est ouais. Hyper chiant.
C'est pas très souvent, mais de temps en temps, on regarde un truc et du coup, on se demande si c'est le HomePod ou si c'est dans le film, parce qu'il y a un problème sonore. Mais ce serait ça que si on regarde Les Tontons Flingueurs et pas une série de Netflix. Donc du coup, ouais, c'est un petit peu agaçant.
Et la première fois, honnêtement, moi, j'ai cru que mon HomePod avait claqué et était mort, quoi. Parce que ça avait vraiment un gros clac, genre, enfin, un plop hyper bruyant. Et certains, ce problème a été résolu, selon certains, sur la 15.3. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il me le refaisait un petit peu. Donc voilà, selon l'article de MacG, visiblement, il fallait reflasher le système. Enfin bon, il y avait plein de trucs, mais la mise à jour a l'air de corriger chez certains, pas chez tout le monde, donc à suivre.
Ok, et puis une petite info à propos des AirTags et de ces incidents de pistage. Vous savez qu'Apple a sorti une appli qui s'appelle Tracker Detect, appli pour Android qui permet de savoir si un AirTag qui ne vous appartient pas vous suit. Son défaut, c'est que cette appli ne fonctionne pas en tâche de fond. Et ben, y a une appli alternative qui s'appelle AirGuard ou AirGuard, selon que c'est Fabrice ou François qui prononce son nom, appli qui va faire la même chose, mais qui va fonctionner en tâche de fond et donc qui sera constamment à l'écoute d'éventuels AirTags à proximité, donc AirGuard alternative à Tracker Detect. Dans un instant, ma maison connectée, la domotique, HomeKit avec toi François. C'est le retour de ma maison connectée dans Hey Week, la semaine Apple, le podcast après tes vacances, François. Et enfin, un tout petit peu d'actu.
Oui, alors il y a eu deux produits qui ont été annoncés cette semaine. Alors il y en a un qui va nous intéresser d'abord, le deuxième pas pour l'instant, mais je pense que ça devrait plus tarder à arriver. On sent depuis quelques mois que vraiment, d'un point de vue domotique, ça se développe énormément et de tous les côtés sur tous les produits. Je vous ai parlé déjà un certain nombre de fois de mon fameux détecteur de fumée NetAtmo, et donc c'est la marque Meros qu'on a évoqué déjà un petit paquet de fois dans iWeek. Je sais qu'Eli est fan aussi de leurs produits. Le gros avantage de Meros, c'est que c'est des produits qui sont de bonne qualité, qui sont vraiment vraiment pas chers, et donc Meros vient de lancer un détecteur de fumée qui est assez spécifique, qui est différent de tout ce qu'on a pu voir avant, dans le sens où déjà sa petite nouveauté, c'est que ce n'est pas une batterie. Un des reproches que j'avais fait moi au NetAtmo et la plupart des détecteurs de fumée connectés, c'est que c'est une pile, une batterie qui dure 10 ans en fait, et au bout de 10 ans, l'appareil est bon à jeter. Là, l'avantage de l'appareil Meros, c'est qu'il fonctionne avec deux piles AA. L'inconvénient, c'est que ça fonctionne 12 mois, donc il faut penser à changer les piles régulièrement, mais au moins, ça veut dire que vous ne le jetterez pas demain. Donc ça, c'est plutôt positif. Son autre différence aussi, c'est qu'il n'est pas tout seul. En fait, avec, vous avez un petit concentrateur, c'est le côté chiant, c'est-à-dire que le détecteur va se connecter à un concentrateur, obligatoirement. Mm-hmm. Donc ça veut dire un concentrateur de plus à brancher chez vous, donc ça veut dire un de plus dans votre baie réseau si vous avez une jolie baie réseau. Il se connecte avec un câble USB vers micro USB. C'est du standard, donc éventuellement vous avez peut-être un vieux chargeur de Samsung qui traîne. L'intérêt de ce concentrateur, c'est que vous pouvez brancher jusqu'à 16 périphériques et les détecteurs peuvent communiquer entre eux. C'est-à-dire que si vous en mettez plusieurs dans la maison, certains informeront les autres et ainsi de suite. Et puis l'autre petite spécificité, c'est qu'il détecte aussi la surchauffe. À partir de 54 degrés, s'il y a vraiment une grosse chaleur, il va se déclencher. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez un produit qui commence à brûler mais qui n'a pas de fumée, qui n'a pas de flamme, si c'est juste de la chaleur qui se dégage, ce sera annoncé. Il y a une autre marque qui a présenté un détecteur de fumée, mais qui n'est pas compatible pour l'instant avec nos chers pays européens, nos chers pays. En Ukraine, je ne sais pas si on va pouvoir l'installer, j'espère que oui. C'est Xiaomi qui a présenté un nouveau détecteur de fumée, capteur de fumée, donc qui est aussi compatible HomeKit, mais qui est pour l'instant est réservé à la Chine continentale, qui fonctionne, lui, sur batterie, qui va durer 10 ans. L'intérêt aussi, c'est qu'il est compatible Zigbee, évidemment. Vous avez sans doute déjà chez vous un pont connecté à Quora, donc qui se connectera directement au pont connecté à Quora de Xiaomi.
Fabrice dit non de la tête, il n'a pas de pont connecté à Quora.
Ah bon. C'est dommage, tu devrais. Moi j'utilise TikTok Ring pour les Chinois, sois au courant que j'ai connecté
Xiaomi. HomeKit ou Thread, sinon rien.
C'est ça.
Voilà. Moi aussi.
Et justement, tu me donnes une superbe transition pour terminer. Nos amis de chez Yves ont annoncé que leur détecteur de fuite qui s'appelle Eve WaterGuard. On en avait parlé quand Yves a présenté tous ses nouveaux produits. Donc ils viennent de sortir une nouvelle version de ce produit qui était sorti l'année dernière, qui a l'avantage d'être compatible justement avec la technologie Thread. Donc ça se présente sous forme d'un petit produit que vous branchez électriquement, et il y a un gros fil qui court sur 2 mètres, et du coup si vous avez une fuite, vous allez avoir une notification au niveau de votre smartphone. L'intérêt, c'est que vous pouvez rallonger, éventuellement racheter une rallonge. La petite différence, c'est qu'il coûte maintenant quasiment 100€, alors qu'avant il était à 80€. Maintenant, c'est vrai que je trouve ça intéressant, les détecteurs de fuite. J'ai vu ça sur Twitter, quelqu'un qui avait mis en fait un script, une automatisation qui faisait que si par hasard il y avait une fuite de détecté sur sa machine à laver, il avait mis une prise connectée sur sa machine et automatiquement ça coupait sa machine. Et je trouve ça vachement intelligent et je me dis que je vais mettre ça dans ma maison. Et l'avantage de ce produit Eve, c'est que vous pouvez le faire couler sous toute votre cuisine. En fait, si par hasard dans votre cuisine, vous avez, je sais pas moi, un lave-vaisselle, vous avez votre lave-linge, vous avez votre robinet, etc., bah, du coup, vous pouvez le faire couler tout le long de vos meubles et comme ça, vous êtes tranquille.
Dis pas le faire couler pour un détecteur de fuite, t'es pas raisonnable.
Le faire circuler, tu veux dire?
Bah, circuler. Oui. J'ai dit couler, mais circuler, c'est bien aussi.
Merci François pour ce point sur l'actu HomeKit. C'était Ma Maison Connectée dans Eweek. On se retrouve dans une poignée de secondes pour parler des rumeurs de la semaine avec deux sujets principalement. Les rumeurs de la semaine avec deux sujets majeurs cette semaine. D'abord l'iPhone 14 et puis on va en parler. Le casque, le futur casque de réalité augmentée ou virtuelle d'Apple. Alors d'abord l'iPhone 14. D'abord des rumeurs autour d'une éventuelle augmentation de la mémoire vive embarquée pour s'aligner notamment sur ce que propose Samsung avec son Galaxy S22 Eli.
Oui, tout à fait, puisque la mémoire passerait en fait à 8 gigas de RAM. Ça, on ne peut être que d'accord, parce que plus on a de mémoire dans le téléphone, plus il va faire fonctionner des choses rapidement, moins de pagination, etc. Donc c'est très très bien. Et puis, pour le reste, dans le design, il semblerait que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il sera plus fin, avec des capteurs qui vont moins ressortir. Mais... notre ami John Prosser a fait une émission scoop en disant « Ah, c'est la catastrophe, le design de l'iPhone 14 est définitif. » Et il a confirmé qu'il y aurait le punch hole, donc le petit trou, plus un petit notch. Donc en fait, il y aurait deux choses visibles dans l'écran et lui trouve ça totalement affreux. Moi, j'ai vu les photos, ça ne me dérange pas, mais lui il trouve ça scandaleux et il a publié plein de trucs en disant c'est pas possible qu'Apple fasse ça, comment ose-t-il et tout. Il était très énervé.
Bon, là-dessus, on n'a pas de certitude encore, hein, je crois.
Non.
Je fais moyennement confiance à John Prosser.
C'est pas Mark Gurman en même temps, hein, donc voilà. Bon.
Voilà, je fais moyennement confiance à John Prosser là-dessus. En ce qui concerne l'iPhone 14 toujours, le design aurait été définitivement validé, donc ce point a dû être tranché, même si nous, on n'est pas encore certains. Les infos mettront un petit peu de temps pour nous parvenir. Et il y aurait donc bien quatre modèles, comme on l'a toujours dit, avec deux sous-traitants qui vont se répartir la fabrication. D'un côté, il y aura les modèles Pro chez Foxconn, donc ce qu'on connaît déjà avec le Pro et le Pro Max. Le changement, ça va être de l'autre côté, hein, sur les deux premiers modèles. L'iPhone 14, tel qu'on l'attend, est successeur des 12, 13, etc. Et puis un 14 Max à la place du Mini. Et donc, ça confirmerait la disparition de l'iPhone Mini au profit d'un iPhone à grand écran qui serait moins cher que le Pro Max.
Sniff, sniff.
Ouais, Fabrice.
Eh oui.
C'est-à-dire que je ne vais pas avoir eu le temps d'acheter un iPhone mini, en fait. Parce que, comme j'ai tendance à garder mes appareils un peu longtemps, j'ai encore l'iPhone 10, et donc le 12 mini, 13 mini, je les ai pas pris. Et du coup, quand il sera temps de remplacer mon iPhone 10, eh ben, je n'aurai pas de mini. Et ça va m'agacer parce que ça va être trop grand. Je regrette.
Ouais, t'as du mal à comprendre cette évolution de gamme vers deux iPhones à très grand écran.
Non, j'ai pas de mal à la comprendre parce que visiblement c'est le marché tire vers les plus grands écrans.
Oui.
Quand Samsung a commencé à sortir les premières phablettes, on appelait ça phablette à l'époque, avec des écrans 4 pouces 7, c'est rigolo. Apple a mis du temps à réagir et avait des smartphones petits. Et il y a eu, on se rappelle, un immense un saut formidable en termes de nombre d'unités vendues d'iPhone avec l'iPhone 6 Plus qui a été la révolution pour ça, et le 6 Plus s'est vendu vraiment très 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 bien. Donc il y a une vraie demande du marché. C'est pas ma demande à moi, mais moi je suis pas le marché, donc je comprends ce que fait Apple. Je le regrette pour moi, c'est tout.
Eli, tu prédis un succès à ce 14 Max?
Je pense qu'il est très attendu et effectivement, il y a un engouement pour les grands écrans. Donc, moi, j'étais très content de ce mini qui avait toute sa place parce que très pratique, l'écran de très bonne qualité, très facile à mettre dans une poche, etc. Mais bon, moi non plus, je ne suis pas le marché. Donc, je suis obligé de constater que les chiffres donnent raison à Apple et que les gens veulent un écran de grande qualité, mais moins cher.
Ouais, François.
Ce qui me fait marrer, c'est qu'on est tous là à dire on l'aime cet iPhone mini, mais personne ne l'a acheté, donc faut pas chercher plus loin. Pourquoi est-ce qu'Apple le continue pas?
Oui, moi j'ai pas eu le temps de l'acheter et ma fille là, et c'est ça qu'elle voulait. Hein.
Ah ben voilà, c'est ça. Moi c'est pareil. Moi je l'ai pas acheté pour moi, mais autour de moi j'ai au moins trois personnes qui ont acheté, à qui j'ai vendu ou offert des 13 mini, des jeunes en particulier.
C'était ma phrase de conclusion, les gars, vous avez relancé, c'était pas le but, là, c'est n'importe quoi.
C'est pas grave, ils avaient encore des choses à dire, fallait en profiter.
Oui.
Bon, le deuxième gros sujet qui a concentré les rumeurs de la semaine, c'est toujours le futur casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple, avec deux infos pas vérifiables, mais qu'on va donc considérer comme des rumeurs. D'abord, la production de masse serait bien prévue pour commencer au mois d'août et donc pour une sortie avant la fin de l'année, même si Mark Gurman continue de penser que ce sera plutôt après Noël et donc début 2023. Et puis l'autre rumeur, et celle-là, elle pose pas mal de questions, elle concerne l'éventualité d'un abonnement qui serait nécessaire pour alimenter ce casque avec des applis tierces. Abonnement qui viendrait donc s'ajouter au prix du casque. Hein. On parle toujours d'un prix supérieur.
Ça s'appelle pas Apple
Arcade. On parle toujours d'un prix supérieur à 2 000 $ pour le casque. Tu disais dans Hi-Fi LX, ça risquait de flinguer l'intérêt pour ce casque. Je te vois faire non de la tête, François.
Non, effectivement, moi je considère que si on est prêt à mettre 2 000 $ dans un casque, on sera prêt à rajouter une petite au bol mensuel pour réussir à avoir des applications, à voir ce que ça proposera, mais ce qui, et puis vraisemblablement Apple l'inclura peut-être dans un forfait Apple One ou autre. Moi perso ça m'inquiète pas.
Ellie, tu voulais rajouter un point sur cette question de l'abonnement?
Ben oui, parce que ce casque de réalité virtuelle, c'est un nouveau marché pour Apple et c'est un premier produit dans une nouvelle gamme. Donc Apple a plutôt intérêt, vu que le prix, là on parle de 2000, mais moi j'ai entendu 3000. Hein. Donc si on a un casque, admettons plus proche des 3000$, et qui en plus il faut payer un abonnement pour pouvoir l'utiliser. Alors tout dépend, si c'est un abonnement à certaines apps professionnelles, aucun problème. Si c'est un abonnement pour avoir le droit d'utiliser l'OS du casque, c'est-à-dire les fonctions basiques, là non, je ne suis pas du tout d'accord.
Bon ben, on va devoir attendre pour savoir ce qu'il en sera. En tout cas, Apple s'inspirera peut-être du modèle utilisé par Microsoft avec HoloLens, dont les apps tierces nécessitent effectivement un abonnement. Allez, on tourne une page et on se retrouve avec nos serviettes sur les genoux pour le dîner d'Eli. Entrée plat dessert, c'est la table d'Eli, ton dîner comme tous les jeudis dans iWeek, la semaine Apple, Eli. Eh ben, on a faim. Quel est le menu et par quoi on commence?
Eh bien, on va commencer par une petite info sur les relations entre Apple et les Pays-Bas, et Apple qui persiste et reste sur ses positions, préfère payer une amende jusqu'à concurrence de 50 millions d'euros, c'est-à-dire comme l'amende est de 5 millions d'euros par semaine, ils préfèrent reculer de 10 semaines, quitte à ce que ça leur coûte de l'argent, plutôt que de plier et d'autoriser les apps tierces dans l'état actuel du marché. Et pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont déjà été condamnés 3 fois sur 10, donc ils ont déjà payé 15 millions d'euros,
oh, 4 fois,
sans rien dire.
Ouais.
4 maintenant. Non,
ah oui,
bon, peut-être effectivement. Peut-être que là, oui, tout à fait, tu as peut-être raison.
Toutes les semaines,
donc,
ça tombe.
Ils peuvent aller jusqu'à 10, et puis après, est-ce qu'ils vont recommencer à zéro et continuer ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, non seulement ils restent sur cette position, mais ils disent que de toute façon, ils prendront une commission de 27% pour ces apps-là, quoi qu'il se passe. Donc, ils ne plient pas. Ils restent sur leur position inflexible.
Bon. Apple a de l'argent. Apple peut se permettre.
Ouais, mais quand même, ça fait quelques millions. Mais
ouais. Ouais, ensuite, mais c'est tout le problème de ces trucs-là. Hein. C'est pas assez cher. Hein.
Fabrice,
ça fait 10 iPhone 13 Pro Max, c'est tout. Hein.
Non, mais voilà. Non, mais c'est que les États prennent position et mettent en place des actions. Ça me paraît indispensable. De toute façon, c'est les États qui décident. Mais là, l'amende telle qu'elle est, Apple s'en fout, quoi. Visiblement.
Oui, c'est un petit pourboire, quoi.
Exactement.
C'est le type à la fin du dîner. Alors, Ellie, ben, on est prêt pour le plat de résistance?
Oui, alors le plat de résistance, c'est un peu les vieux démons d'Apple qui ressurgissent de temps en temps, parce qu'on a appris, grâce à nos confrères de MacG qui ont publié l'info tout à l'heure, qu'en fait, certaines applis d'IPTV, donc pour regarder la télévision sur sa tablette ou sur son Mac, donc tels que MyCanal, très connu, ou Molotov, n'ont pas le droit de diffuser certains contenus qui déplaisent à Apple, et ces contenus, c'est bien sûr des contenus de type pornographique. Donc ceux qui regardaient le film du samedi soir à minuit, je sais que personne d'entre vous ne regarde, mais si vous voulez regarder ça sur MyCanal, ils peuvent pas, parce qu'en fait Apple bloque le contenu sur non seulement les smartphones, les tablettes, mais aussi sur l'Apple TV. Donc en fait vous vous retrouvez non pas à entrer votre code parental, parce que c'est bien de protéger les enfants et tout ça, et d'avoir un code parental depuis très longtemps, depuis que Canal existe, ils ont ça et c'est très très bien, simplement, Apple met un sens interdit. Il dit ce contenu peut heurter la sensibilité du public et donc il refuse de le diffuser.
Attends, que Canal veuille, abonnement
eux ne veulent pas.
Tu payes un abonnement à Canal+, tu achètes un Apple TV
et tu ne peux pas en l'état. Non. Et d'ailleurs, il y a, apparemment, je suis pas allé voir, hein, mais je veux bien croire les journalistes qui ont fait le test, il y a un contenu dans Canal+ sur le décodeur traditionnel, sur du contenu érotique, voire pornographique, qu'on peut revoir en replay. Et cette section, en fait, s'efface dans MyCanal. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une microseconde où elle devrait apparaître, mais après, elle disparaît. C'est-à-dire que vous n'y avez pas accès sur la plateforme iOS ou tvOS. Donc, ce qui est un tout petit peu exagéré, je trouve, parce qu'après tout, il y a des adultes consentants qui savent ce qu'ils font, qui payent des abonnements. Il y a même un supplément Canal pour ceux qui veulent Dorcel TV et quelques autres chaînes. Ça existe. Hein. Et mais pourquoi ils n'auraient pas le droit de regarder ça sur leur Apple TV? Je ne sais pas. Apple, des fois, va un peu loin, mais c'est de l'époque où Steve Jobs avait dit à un journaliste qui lui posait la question que ceux qui voulaient regarder de la pornographie avaient qu'à acheter des téléphones Android et non pas des iPhones à l'époque. Bon, c'est, et donc on constate, et le paradoxe, pourquoi je dis que c'est un paradoxe, c'est parce que certaines séries sur Apple TV et plus, ou certains livres sur l'App Store, depuis quelques années, on sent qu'il y a quand même un léger glissement. Vous pouvez quand même acheter très facilement la série 50 nuances pour ceux qui veulent, ou lire certains romans un peu érotiques si vous le souhaitez, mais pas de télévision, pas de pornographie à la télévision pour le moment, en tout cas pour Canal. Voilà. Bon, il fallait juste le signaler.
Bon, fais gaffe, tout à l'heure tu as utilisé le mot section, et dans section, c'est que de la phonétique, mais j'ai entendu sexe. Et fais gaffe parce qu'on risque de se faire blacklister juste pour ça. Ah bon, moi je dis ça, je dis rien.
Aïe. Bon, je ferai attention à mon accent.
Bon, et bon, alors, est-ce que le dessert va nous réjouir un peu plus, Alain? Pour l'instant, c'est pas des très bonnes nouvelles. Hein.
Non, peut-être qu'on arrivera à le contourner, je ne sais pas. en tout cas, bon, le dessert correspond à un petit tuto très rapide parce que vous savez qu'Apple a sorti des aides pour les malentendants, et ils ont sorti en particulier sur les AirPods Pro depuis un certain temps une fonction qui permet, en fait, qui s'appelle Conversation Boost, donc le boost de conversation, qui permet, lorsque vous l'activez, de privilégier le flux audio de la personne qui est en face de vous, par exemple quand il y a un brouhaha dans un restaurant ou des choses comme ça, et de bien l'écouter. Et donc, cette fonction existe, la seule chose c'est que personne ne sait l'utiliser. Enfin, peut-être il y a l'un de vous qui est allé au bout du truc, mais il a fallu que quelqu'un se penche et fasse un véritable tuto, parce qu'il faut faire toute une série d'opérations pour pouvoir l'activer. Il n'y a pas un petit bouton où on clique et c'est bon, pas du tout. Il faut vraiment faire toute une série de choses, donc je vous le dis rapidement, hein. Donc il faut aller dans réglages, puis il faut aller dans accessibilité, puis ensuite il faut aller sur audiovisuel, ensuite il faut appuyer sur Headphone Accommodation, je ne l'ai qu'en anglais, hein, mais vous traduirez. Et une fois que vous êtes dans cette section-là, il faut scroller jusqu'en bas, il faut aller dans Réglages, puis il faut choisir Control Center, il faut aller jusqu'en bas, il faut appuyer sur Plus de contrôle, il faut trouver Hearing, et une fois que vous êtes là, il faut appuyer sur le petit symbole plus vert pour pouvoir le rajouter à la section des contrôles. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini, parce qu'ensuite, une fois que vous êtes allé jusque là, vous allez afficher le panneau de contrôle, vous allez cliquer sur ce bouton Hearing, et du coup, vous allez pouvoir réappuyer sur Headphone Accommodation une fois de plus. Ensuite, vous allez cliquer sur Mode transparent. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez le mettre On ou Off. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout fait et que vous avez l'habitude, ça peut aller assez vite, mais disons que c'est pas à la portée du premier venu, on va dire.
Et toute la phase initiale qui consiste à mettre le bouton, en fait, le raccourci dans le Control Center, quoi.
Dans le centre de contrôle, absolument. Ouais. Tout à fait. Après, c'est
plus. Tu peux répéter, j'ai pas entendu.
C'est parce que tu n'avais pas fait justement l'activation de cette fonctionnalité. Attention qu'Apple précise que ça risque de diminuer la batterie. Parce que à partir du moment où c'est en place, ça consomme de la batterie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis un on-off pour que vous puissiez le désactiver lorsque vous n'en avez pas besoin. Et il précise aussi que c'est moins puissant que la fonctionnalité qui existait déjà qui s'appelait, je me rappelle plus, Live Listen, donc et qui consistait à poser son iPhone sur la table, pointer vers la personne et d'écouter dans les AirPods. Là, c'est différent puisque ce sont les AirPods qui focalisent le flux audio, mais c'est quand même plus pratique que de poser l'iPhone face à la personne en disant j'ai pas compris et lui tendre l'iPhone pour qu'il parle. Bon, mais c'est à tester en tout cas. Donc, je vous donnerai le lien sur Twitter pour ceux qui veulent essayer de le faire, et on va tous essayer de le faire parce que j'avoue que je l'ai lu, je n'ai pas eu le temps de faire toutes les étapes, mais on va le faire et on va voir si effectivement on arrive à comprendre ce qu'il dit le monsieur, parce que des fois j'ai un peu de mal à suivre mes petits camarades quand ils parlent. Donc, je vais. Allô. Voilà, voilà.
Merci Ellie pour ce dîner à ta table 3 étoiles. À jeudi prochain pour un nouveau repas. Le tuto audio, comment libérer de la RAM sur votre Mac? Si je vous dis 8, 16, 32, 64, c'est vraiment la classe, le luxe. On compte en gigaoctets et aujourd'hui on parle de mémoire vive dans le tuto audio, oui. La fameuse RAM, tellement importante pour la vélocité de votre Mac. Les Mac M1 en ont une gestion très optimisée, mais sur un Mac Intel et même sur un M1, vous pouvez vous retrouver dans des situations où votre Mac rame, voire patauge complètement. Il peut friser ou alors vous tapez au clavier et les caractères mettent plusieurs secondes à apparaître. Hein, n'est-ce pas Fabrice, ça te rappelle des souvenirs? Le ballon de plage qui tourne aussi, oui, c'est aussi l'un des symptômes d'une mémoire vive saturée. Alors l'idéal, ce serait d'augmenter la capacité en RAM. Autrefois, dans le bon vieux temps, on achetait des barrettes de RAM de plus grande capacité et on les remplaçait à la main, deux par deux. Si votre Mac est ancien, pour ne pas dire vieux, ce sera peut-être votre première solution. Dans tous les autres cas, puisque vous ne pouvez pas augmenter la quantité de RAM, il faut en libérer. Alors vous aurez parfois une fenêtre qui vous invitera à quitter certaines applications actives, mais dans tous les autres cas, ce sera à vous de jouer et de ruser. Alors la première chose à faire, eh bien, c'est de quitter toutes vos applications ouvertes en songeant évidemment à enregistrer vos documents au préalable et redémarrer votre Mac. Si votre Mac est gelé, un appui long sur le bouton d'alimentation l'obligera à s'éteindre. Attendez une quinzaine de secondes, le temps que tout revienne un peu dans l'ordre à l'intérieur, et appuyez une fois sur le même bouton pour lancer le redémarrage. Si votre Mac n'est pas gelé, quittez les applications ouvertes que vous n'utilisez pas à cet instant. Il y en a toujours qu'on a oublié de quitter. J'ai bien dit quitter, n'est-ce pas, maman? Et pas seulement fermer la fenêtre de l'appli, ce qui ne suffit pas à quitter une appli, je le rappelle. Troisième possibilité, troisième conseil, ouvrez le moniteur d'activité. C'est peut-être une application que vous n'avez jamais lancée. Elle se trouve donc dans le dossier application dans utilitaire. Elle va vous permettre de repérer les applications qui consomment le plus de RAM. Pour le voir, cliquez donc dans le moniteur d'activité sur l'onglet mémoire. Cliquez sur un nom d'appli dans la liste à gauche, puis sur le i dans le haut de la fenêtre. Et quitter les applications les plus gourmandes. Dans la liste figurent plus que les applis, hein, tous les process en cours, des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose. Si vraiment vous ne savez pas à quoi elles correspondent et si vous voulez ne pas faire de bêtises, Google sera votre meilleur ami. Si ça ne va toujours pas mieux, la prochaine étape, c'est de supprimer les fichiers de cache. Alors, ouvrez une fenêtre du Finder, appuyez sur majuscule commande plus la lettre G, et dans la case qui apparaît, tapez le tilde espagnol slash library en anglais avec un Y slash cache au pluriel. Une fenêtre contenant tous vos fichiers de cache va apparaître. Faites commande plus la lettre A pour tout sélectionner, puis commande et la touche supprimer pour tous les supprimer et bien sûr vider la corbeille. Enfin, jetez un œil sur les applications qui se lancent automatiquement à l'ouverture de chaque session. Pour le faire, allez dans les préférences système, puis dans utilisateur et groupe. Dans la colonne de gauche, cliquez sur votre compte utilisateur, puis sur l'onglet ouverture. Retirez toutes les applications qui ne vous sont pas indispensables. Vous pourrez les lancer manuellement si besoin. Si vraiment vous êtes toujours dans la panade, le dernier conseil, c'est de mettre à jour macOS et toutes vos applications. Vous tournerez ainsi avec les versions les plus optimisées, y compris au niveau de la RAM. Voilà, c'était les 6 conseils pour profiter au mieux de votre mémoire vive.
Il y en avait un 7e, c'était jeter votre Mac Intel pour acheter un Mac M1. Au max.
Voilà. Merci François, je la garde. Nos coups de cœur de la semaine, on commence par toi Fabrice.
Oui, rapidement, et puis parce que je suis en retard, mais je viens moi de commencer juste la saison 1 de The Crown sur Netflix, et je trouve ça formidable, pour deux raisons, la façon, enfin c'est vraiment de très grande qualité, et ça arrive à m'intéresser à la vie de la famille royale anglaise, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent, je trouve que c'est une réussite de ce point de vue-là, et c'est vraiment filmé, c'est magistral. Donc je conseille ça, j'en suis à l'épisode 6 ou 7 et j'ai hâte qu'on finisse d'enregistrer pour y retourner.
Ah bon, les deux premières saisons sont top. Ouais.
Oui.
Je suis le seul à ne pas avoir commencé, mais voilà, c'est sur ma liste.
C'est magique. Donc,
ça va venir. Ellie, à toi ton coup de cœur.
Eh bien, une petite série télé dont on avait parlé à l'époque, hein, en saison 1, c'est Space Force sur Netflix, qui est une parodie, c'est avec Steve Carell, et qui parle en fait de cette nouvelle branche de l'armée américaine qui avait été créée lors de l'administration précédente. Et il se moque beaucoup, hein, déjà dans la saison 1, du président de l'époque en place et de sa femme. Et donc c'est assez rigolo. Et puis la saison 2 qui vient de démarrer, il y a quelques jours, reprend la même équipe au cœur d'une nouvelle administration, donc qui est complètement différente. D'abord, ils essayent de virer le sympathique général nerd, hein, donc qui est Steve Carell, mais comme son successeur, c'est un fou furieux. Finalement, ils sont obligés de le garder sur place, mais tout gentiment, il lui coupe tous ses crédits, donc il arrive même plus à acheter des trucs au distributeur. Enfin, ça commence comme ça, c'est super, super drôle. L'équipe et les acteurs qui jouent sont extraordinaires et ça m'amuse vraiment beaucoup. Donc, saison 2 et la saison 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur Netflix et c'est génial.
Space Force, donc, sur Netflix, Ellie. François, ton coup de cœur de la semaine.
Alors, je pense que c'est un coup de cœur, mais je pense que ce sera bientôt un test. Je vous ai déjà parlé de cette marque qui s'appelle Peak Design, qui est spécialisée dans les produits pour principalement gens qui utilisent des appareils photo. Il y a des sacs, il y a ce qu'ils appellent les capture clips, c'est des petits supports que vous mettez sur vos sacs à dos et vous pouvez clipser votre appareil photo dessus. Enfin, plein de produits vraiment tous très sympas. Ils ont enfin envoyé, on va le dire ça comme ça, il y a quelques temps, tout un écosystème autour de coques de téléphone. Alors, c'est un produit que j'avais backé sur Kickstarter il y a une bonne année, il y a eu pas mal de retard. Ils s'en sont excusés d'ailleurs. La spécificité de ces coques, c'est qu'elles sont compatibles à MagSafe, c'est-à-dire que vous retrouvez le principe des aimants Apple, ce qui est vraiment très pratique, ce qui marche bien. Mais en plus, alors pour ceux qui ont la vidéo, je l'ai juste devant moi. Vas-y. Il y a une petite fonctionnalité en plus. En fait, vous avez un petit carré.
Venez sur la chaîne YouTube.
Et sur certains produits, en fait, comme le support de vélo, par exemple, en fait, ça fait une double sécurité. C'est-à-dire que c'est à la fois aimanté et en plus, c'est accroché physiquement. Et sur tous les supports, vous avez deux petits boutons à appuyer dessus pour pouvoir les sortir. Donc, c'est compatible MagSafe et écosystème particulier Peak Design. En fait, pour l'anecdote, quand ils ont lancé le projet Kickstarter, c'était juste avant la sortie de l'iPhone 12, au moment de l'iPhone 12. Et donc, du coup, ils ont été un peu pris au dépourvu, ils ont réussi à adapter ça, donc c'est bien compatible avec les produits MagSafe, j'utilise ma batterie MagSafe régulièrement dessus, c'est vraiment hyper qualitatif, la coque est assez chère, elle vaut 35-40 euros, et l'écosystème autour est assez cher aussi, mais vous avez un support de voiture, vous avez un support pour bureau, vous avez aussi un petit support pour mettre vos cartes bancaires, support de vélo, support de moto, support de VTT, vous pouvez l'utiliser en clip créateur aussi, si vous voulez vous trimballer avec votre iPhone sur le sac à dos pour filmer. Enfin, il y a plein de produits super bien, et le gros avantage de Peak Design, c'est que les produits sont garantis à vie, c'est-à-dire que si vous avez un problème, vous avez juste à les contacter avec une petite photo, et généralement ils remplacent les produits sans trop de difficultés. Donc voilà, la marque Peak Design avec les coques qui sont proposées par Peak Design.
Super François, merci. Et ben moi, mon coup de cœur, c'est aussi une série. Alors je viens de la commencer, elle vient de démarrer hein, sur Amazon Prime. C'est Totem. Alors c'est une série qui vous plonge dans les années de la guerre froide. On se retrouve dès le premier épisode à Berlin-Est. On passe Checkpoint Charlie. Et c'est l'histoire de scientifiques et d'espions français qui cherchent à obtenir des informations du bloc de l'Est sur un système de missiles dans l'espace. Enfin voilà, c'est une sorte de guerre des étoiles avant l'heure. C'est avec plein d'acteurs assez géniaux, dont Lambert Wilson qui joue un patron des services secrets, un officier assez génial. On retrouve aussi l'ancien camarade d'Antoine Decaune dans Nulle part ailleurs.
José Garcia.
José Garcia, absolument. Aussi dans les services secrets, il y a une très belle distribution. L'esthétique est magnifique. La lumière, les décors, on est vraiment plongé dans les années 60. Et donc, je vous conseille Totem sur Amazon Prime. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple, le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode 79, retweetez l'un de nos tweets depuis le compte iWeek News qui annonce sa dispo. Vous nous aiderez à gagner de nouveaux auditeurs et n'hésitez pas à partager le lien d'abonnement au podcast sur Facebook ou LinkedIn. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et on a besoin de vous. On se retrouve dès demain, vendredi, avec l'épisode 124 d'i5. Abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast pour ne rien rater de l'actu Apple au quotidien. On sera de retour, nous, avec iWeek jeudi prochain, 3 mars 2022. Ce sera l'épisode 80. Si tout va bien, la keynote du 8 mars ne sera plus que dans 5 jours. Merci les amis, merci Fabrice d'avoir été là.
Merci à tous, c'était un plaisir comme d'habitude.
Ouais, plaisir partagé. Salut François.
Salut à tous, bonne semaine et portez-vous bien. Et j'ai mis une pièce, on verra si j'avais raison ou pas sur la date d'annonce de la keynote.
Ah, on verra ça la semaine prochaine, effectivement. Élie, salut.
Bonsoir tout le monde, à la semaine prochaine.
Ouais, très très bonne fin de semaine à tous, bon week-end. Une bise à Gilles Dounès et à Jean-Christophe Vigne qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à jeudi prochain en espérant que la keynote sera confirmée d'ici là. Bye bye, ciao.
Bye bye. Ciao.